Bonjour Nasser Madji.
Bonjour Frédéric.
On commence avec l'attente avant les résultats des élections présidentielles au Mali et au Zimbabwe.
Et cet espoir relayé sur le site internet du journal La Croix d'une Afrique qui veut émerger, car il se passe quelque chose sur le continent comme un air de démocratie ouverte. Au Zimbabwe, le président actuel Emmerson Mnangagwa l'avait promis, les élections qui se déroulent seront libres, transparentes et honnêtes. Il y a quelques minutes, son opposant vient de revendiquer, je cite, une victoire éclatante. En novembre 2017 déjà, c'est l'ancien potentat du pays Robert Mugabe, 94 ans, qui avait fini par jeter l'éponge. Et dans d'autres pays du continent, les exemples d'avancées démocratiques ne manquent pas. Un peu plus au nord, sur la carte de l'Afrique, Abiy Ahmed, premier ministre éthiopien, arrivé au pouvoir cette année à 42 ans seulement, s'applique à bouleverser son pays, libérant des prisonniers politiques et concluant la paix avec l'Érythrée. Au sud, l'Afrique du Sud en a enfin fini cette année avec Jacob Zuma et ses frasques. Son successeur Cyril Ramaphosa a fait de la lutte contre la corruption sa priorité. Vers l'ouest, en Angola, il y a un peu moins d'un an, José Eduardo dos Santos, lui, s'est retiré après 38 ans au pouvoir. Et les espoirs sont aussi économiques, conclut Pierre Cochet. Le Kenya, l'Ouganda, le Mozambique ont découvert récemment qu'ils possédaient des ressources potentielles en hydrocarbures, même si les richesses en matières premières sont en Afrique souvent facteurs de déstabilisation.
En Chine, des ONG mettent en cause les médias publics accusés de relayer des aveux forcés.
Elle s'appelle Wang Lu. C'est une avocate chinoise emprisonnée, spécialiste des droits de l'homme. Dans une vidéo, nous raconte le Figaro, elle fustige ceux qui ont tenté de faire sortir son pays, de faire sortir du pays son fils de 16 ans. C'est illégal, dit-elle dans cette vidéo. Je condamne ce genre d'action. Sur les images, Wang Lu parle d'un ton monocorde. Elle semble épuisée. Dans une autre vidéo diffusée en 2016, elle accuse cette fois vouloir renoncer à son travail d'avocate et accuse les forces étrangères de l'avoir utilisée pour discréditer le gouvernement chinois. Ces déclarations ont en fait été extorquées à la militante. La première fois, la police lui avait promis que si elle récitait un texte préparé, son fils serait relâché. La seconde, qu'elle pourrait être libérée rapidement. Rappelant les séances d'autocritique de l'ère Mao Tse-tung pendant la révolution culturelle, ce type de confession télévisée forcée se multiplie en Chine depuis quelques années. L'ONG Safeguard Defenders a recensé au moins 45 enregistrements. Un témoin surnommé Li raconte lui avoir été interrogé plus de 70 fois. Ses interlocuteurs lui ont martelé que s'il ne coopérait pas, il serait condamné à une peine de prison, perdrait son travail ou serait abandonné par sa famille. La plupart de ces cas concernent des journalistes ou des blogueurs et des défenseurs des droits de l'homme également, et souvent donc avec la complicité de médias publics.
Nasser Madji, en France, le sujet incontournable, c'est la double motion de censure à l'Assemblée.
Avec un exécutif saisi par l'émotion, nous dit Joly Libération. Et c'est vrai que deux motions de censure en même temps, cela fait 40 ans que ce n'était pas arrivé. Et même si elles seront rejetées et que le gouvernement, protégé par sa large majorité, sera encore là demain, c'est bien la première fois que le quinquennat Macron doit faire face à un front réunissant et la droite et la gauche. Et pour répondre à une opposition incandescente, c'est Édouard Philippe qui sera en première ligne. Plusieurs journaux analysent donc ce matin la posture du Premier ministre depuis le début de cette crise. Il a parfaitement joué son rôle de bouclier, nous dit par exemple Libération. Dès le lendemain de la parution de l'enquête du Monde, et alors que les ministres ont reçu la consigne de l'Élysée de ne faire aucun commentaire, c'est bien le Premier ministre qui s'est coltiné la colère de l'opposition au Sénat. C'est lui qui a répondu à toutes les questions, 17 en tout, souvent dans son style, bien à lui, placide, tranquille. Édouard Philippe se marre, nous raconte Laure Breton, car le Premier ministre a beau être parfaitement loyal, l'affaire Benalla atteint le premier cercle macroniste. Ces mormons qui ont fait la campagne avec Macron, dont lui n'a jamais fait partie. Sous-utilisé pour les uns, trop discret pour les autres, l'ancien maire du Havre continue simplement d'incarner son personnage, nous dit de son côté l'opinion, pacificateur, mesuré, c'est vrai, mais aussi très politique. Dans le quotidien libéral, Chloé Morin de l'Ipsos précise « Le Premier ministre a joué le double jeu de l'écoute et de l'offensive, mais sans mise en cause directe des médias ou des oppositions. » Nous voyons donc, comme dans une sorte d'inversion des rôles, un président qui cède à des interpellations politiciennes, alors qu'Édouard Philippe, lui, tente de préserver les institutions. Résultat, les motions de censure de cet après-midi viseront bien à chahuter le Premier ministre, faute d'atteindre le chef de l'État. Ça promet des débats énergiques.
De l'énergie, il y en a qui en ont à revendre, surtout pendant les vacances, ce sont les enfants.
Et Science et Vie, Frédéric, dans un très chouette mais néanmoins très sérieux article, pose la question: pourquoi ils nous épuisent tant? Comment font-ils ces enfants pour courir partout, tout le temps, pour sauter sans jamais s'arrêter, laissant leurs parents, le souffle court, les jambes coupées ou transpirant à grosses gouttes? Eh bien, parce que les enfants possèdent un métabolisme musculaire spécial qui surclasse même celui des athlètes. Oui, nos enfants sont tous des Usain Bolt en puissance et on ne le savait pas. L'article d'Alexandra Pien se base sur une étude expérimentale qui a eu lieu en Auvergne sous l'égide de Sébastien Ratel, maître de conférences à l'université de Clermont-Ferrand. L'idée est de comparer des filles et des garçons de 10 et 11 ans avec des adultes, mais aussi avec des athlètes de très bon niveau. Chacun fait un sprint de 30 secondes sur un vélo statique et après analyse des données, le résultat est plus qu'étonnant. Les enfants sont au niveau des mieux entraînés. En fait, l'étude explique que les muscles des enfants sont constitués à 70% de fibres rouges irriguées par de nombreux vaisseaux sanguins et qui produisent donc plus d'énergie que les 30% de fibres blanches restantes et qui, elles, sont moins irriguées. C'est comme si les enfants étaient naturellement plus endurants. Chez les adultes, en revanche, ces fameuses fibres sont à égale proportion. Plus fort encore, les plus jeunes récupèrent plus facilement. En fait, ils éliminent plus efficacement les déchets métaboliques qui perturbent la contraction musculaire. Le taux de lactate que les sportifs de haut niveau connaissent bien disparaît plus rapidement et l'enfant, là encore, supplante l'adulte. L'équipe de Sébastien Ratel parle de capacité de récupération fulgurante. Mais attention, à la puberté, tout s'inverse. Alors, petit message aux enfants qui écoutent ce matin France Inter et qui épuisent leurs parents à longueur de journée, profitez-en bien, ça va pas durer. Et
voilà, on prendra notre revanche à leur adolescence.
Exactement.
C'était Nasser Medji pour la revue de presse. À demain, Nasser.
À demain.